Bienvenue sur le podcast de Moodstep. Je suis Johanna Kellen, opératrice de Turbine à Bonheur et votre hôte pour ce podcast. Deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, nous recevons un invité pour découvrir des clés de la connaissance de soi et des moyens de les mettre en œuvre dans les équipes. Vous retrouverez cet entretien et les liens cités pendant l'interview sur moodstep.com. Aujourd'hui, nous parlons d'intuition avec Isabelle Fontaine, journaliste et auteure de « Développer votre intuition pour prendre de meilleures décisions ». Et bonjour Isabelle.
Bonjour Johanna.
Écoute, je suis super heureuse de discuter avec toi. On va parler d'un sujet dont on ne parle pas beaucoup en entreprise, qui est l'intuition.
Oui.
Parce que tu as écrit un livre, Développer votre intuition pour prendre de meilleures décisions, ce qui à mon avis est un titre excellent pour les entrepreneurs, les managers, le monde de l'entreprise, puisque les décisions c'est un peu le lot de chaque jour. Est-ce que tu pourrais en quelques minutes te présenter, nous dire qui tu es, quel est ton parcours ?
Oui, donc je suis journaliste. J'ai fait des études d'économie, de droit, et puis j'ai ensuite fait une école de journalisme. Et donc je pratique ce métier, je l'exerce depuis 15 ans maintenant, une bonne quinzaine d'années. Donc je travaille dans la presse, me suis intéressée à divers secteurs dans le journalisme, plutôt de la presse écrite et magazine. Divers secteurs qui allaient du tourisme aux médias en passant par le cinéma. Et puis je me suis petit à petit spécialisée dans le domaine qui me passionne vraiment, à savoir le domaine de la santé naturelle et du développement personnel. Et c'est donc dans cette orientation-là que j'ai été amenée à m'intéresser à l'intuition. Et j'ai eu envie d'écrire un livre qui soit à la fois pratique, mais aussi bien documenté et qui puisse ouvrir beaucoup de portes. Et justement, dans le cadre de ce livre que j'ai vraiment mené un peu comme une enquête, hein, puisque c'est mon travail de journaliste, et donc je suis allée interviewer des gens, et j'avais vraiment à cœur justement, dans les différentes personnalités que j'ai pu rencontrer et interviewer, de rencontrer des personnes directement en lien avec le monde de l'entreprise, donc soit des dirigeants ou entrepreneurs, soit des coachs, hein, des personnes qui forment des dirigeants, j'ai plusieurs interviews comme ça qui font le rapport entre ce que c'est que l'intuition, comment on peut s'en servir dans le milieu professionnel et quelle est sa place aujourd'hui et quelle place on peut lui accorder.
Bah voilà, en fait, c'est génial de faire une interview avec une journaliste parce que tu poses toutes les questions que je dois te poser. j'ai plus qu'à répéter, en fait, les questions que tu te poses. Dans le cadre de ton livre, tu as interviewé des gens qu'on connaît du monde de l'entreprise ou...
Alors, ce n'est pas forcément des gens qui sont particulièrement connus.
Ou des gens qui sont dans quelle position, plutôt ?
Alors, par exemple, j'ai interviewé Laurent Fébis, qui a créé une société d'études de marché, qui est la première société privée d'études de marché, et qui s'appelle Exerchi. Et donc, Laurent Fébis m'a longuement parlé de l'intuition, à la fois dans son parcours professionnel à lui, dans son parcours de vie, et aussi de la manière dont il aimerait que ses différents managers dans son entreprise à lui fassent plus preuve d'intuition. Alors, c'est particulièrement intéressant parce qu'il mène des études de marché, donc on imagine bien que dans un domaine comme ça, il faut évidemment brasser une grande quantité de données.
Ça, puis c'est très cartésien.
Voilà, c'est hyper cartésien, mais en même temps, il faut avoir cette intelligence intuitive. Par exemple, de ne pas trop s'entourer de données. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, je me souviens, il a bien insisté. C'est-à-dire qu'ils vont être envahis d'un tas de rapports, d'études, de chiffres, etc. Et lui-même le dit à un moment donné, il faut oublier tout ça et faire jouer son intuition, son esprit de prendre de la hauteur et de la longueur de vue, en fait. Parce que l'intuition nous invite à ça, en fait. Elle nous invite à regarder les choses et à les appréhender avec un grand angle, entre guillemets. Et donc, il m'a raconté dans cette interview, qui est vraiment intéressante, comment aussi, lui, il avait très tôt, donc il a fait une grande école de commerce, et puis ensuite, il a été consultant lui-même, enfin, consultant d'entreprise, et il raconte comment très tôt, il a rencontré un dirigeant qui lui-même lui a dit, tu sais, le secret, c'est l'intuition. C'est le secret des dirigeants. Et il me disait, Laurent Fabius me confiait d'ailleurs que c'est le secret, donc personne n'en parle, ou peu, en tout cas en France, peu de dirigeants vont dire, ben, moi, mon truc, c'est l'intuition. Mais entre eux, ils le savent et ils en parlent. Et donc, il me racontait ensuite comment lui, il apprend à se servir de son intuition dans ses décisions. Et qu'il aussi, et surtout, parce que pour lui, c'est un acquis, hein. D'ailleurs, il dit que pour lui, la méthode intuitive marche mieux que la méthode rationnelle, quand elle est bien utilisée. Donc lui, il essaye de bien l'utiliser. Mais donc tout son travail à lui, c'est pas tant de développer son intuition, parce qu'elle est déjà bien développée, mais de la favoriser chez tous ses collaborateurs, parce qu'il me disait qu'il était très décontenancé par tous ses collaborateurs très brillants, qui eux-mêmes débarquaient d'écoles de commerce tout à fait prestigieuses, mais qui avaient beaucoup de difficultés à sortir du cadre, des cases, et à rentrer dans des domaines un petit peu plus sensibles ou subtils, pour justement écouter des choses plus évanescentes, on va dire, mais qui font sens aussi, et surtout, et y compris dans un milieu comme les études de marché. Et d'ailleurs, dans cette posture-là, je pense, enfin, je fais une association d'idées avec une personne qui travaille dans la banque, enfin, qui est chargée de sélectionner des dossiers de porteurs de projets, et qui elle-même aussi me disait que elle utilise son intuition, que c'est même le critère déterminant pour elle. C'est-à-dire qu'elle va faire un rendez-vous avec des porteurs de projets, elle va voir l'étude de marché, elle va voir tout un tas de documents très précis. Pour expliquer le projet, mais qu'au final, ce qu'elle va toujours retenir, c'est en sortant de l'entretien, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que me dit mon intuition? Est-ce que c'est oui, c'est non? Et alors, elle a la chance, elle, de pouvoir décider. Et du coup, il lui est arrivé, elle me l'a dit, de refuser des projets parce que sur le papier, tout avait l'air bien, mais en fait, elle ne le sentait pas.
Mais du coup, tu as dit en sortant de cet entretien, elle s'est connectée avec ce qu'elle ressent. Ça veut dire qu'il y a un lien étroit entre les émotions et l'intuition, et si oui, quel est ce lien?
Alors, oui, il y a un lien étroit entre les émotions et l'intuition. C'est parce qu'on va être à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis, que on va ouvrir la voie à l'intuition. Mais en elle-même, on ne peut pas considérer que l'intuition est une émotion. Hein, les émotions, ce sont des, on ressent de la joie, de la tristesse, de la peur. Enfin, il y a cinq grandes catégories d'émotions, mais on ressent pas d'intuition. Cependant, c'est parce que on va être à l'écoute de ce qu'on ressent, qu'on va pouvoir laisser la voix à notre intuition pour qu'elle puisse s'exprimer et nous dire ce qu'elle a à nous dire. Mais attention, parce que les émotions peuvent être aussi l'ennemi de l'intuition. Si par exemple on ressent des émotions très fortes comme la colère, si on est envahi de colère, on ne pourra pas du tout faire place à l'intuition. Donc il y a tout un jeu subtil de savoir. Voilà, d'être à l'écoute de ses ressentis, et y compris dans le milieu professionnel, parce que, évidemment, on a tendance à penser que l'intuition, comme le monde des émotions, sont réservées à la sphère privée. Mais en réalité, moi, je dis toujours que l'intuition, elle ne s'arrête pas à la porte de chez soi, et qu'elle se continue, évidemment, dans le milieu professionnel et dans l'entreprise, si on travaille en entreprise.
Du coup, comment tu définirais l'intuition? Qu'est-ce que cette intuition qui n'est pas une émotion, qui est assez impalpable en fin de compte,
Tout à fait.
comment tu la décrirais?
Moi, la définition que j'ai adoptée, parce que je trouve que c'est la plus simple, je dis que l'intuition, c'est la capacité de capter une information de manière non conventionnelle. Et donc, qu'est-ce que c'est que non conventionnel? Ça veut dire sans passer par les cinq sens tels qu'on les utilise de manière habituelle. Donc, ce n'est pas une information qu'on va obtenir avec nos yeux parce qu'on l'aura vue, ou une information qu'on aura entendue avec nos oreilles. Mais par contre, l'information qu'on va capter va quand même transiter par nos sens, mais nos sens sont comme intériorisés. Et ça, c'est très important à comprendre. C'est par exemple une image qui va nous apparaître dans notre tête, ou une voix qu'on entend, ou un ressenti, quelque chose qu'on ressent dans son corps physiquement, dans un endroit de son corps. Et là, on est dans une réception d'informations qui transite par notre intériorité. Et cette notion d'intériorité, elle est fondamentale dans l'intuition, c'est-à-dire d'être à l'écoute de ce qui se passe en nous. Et c'est compliqué aujourd'hui, et surtout en entreprise, parce qu'on est de plus en plus, comment dire, bombardé d'informations en tous sens. Et puis ça va de plus en plus vite. Donc évidemment, tout le Internet, tous les écrans, hein, qui sont autour de nous et qui nous apportent des informations, évidemment, mais qui peuvent aussi complètement nous saturer d'informations. Et du coup, on n'arrive plus, étant bombardé d'informations extérieures, on a du mal à se connecter à cette source d'informations-là qui est précieuse et qui se situe en nous.
Donc, ça m'amène à deux questions en fait. La première, et on reviendra peut-être un peu en arrière ensuite, c'est du coup comment avoir confiance en son intuition?
La confiance en son intuition, elle se construit avec l'expérience. C'est-à-dire, je suis mon intuition, j'ose la suivre, ce qu'elle me dit, et je vois que ça marche. Donc, j'ai de plus en plus de confiance en mon intuition, donc je continue à l'utiliser. Donc, en gros, pour avoir confiance en son intuition, bah, il faut lui faire confiance, déjà. Et ça paraît être une évidence, mais c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que, on ne peut pas faire confiance en quelque chose si on ne lui donne pas la possibilité de s'exprimer. Donc, pour lui donner la possibilité de s'exprimer, il faut lui dire, OK, bah, écoute, je vais t'écouter, je vais te suivre, et puis je vois ce qui se passe. Et puis, je pense que l'autre chose aussi pour faire confiance en son intuition, c'est d'apprendre aussi à mieux la connaître, tout simplement, et aussi à repérer, et ça c'est très important, quand on n'est pas dans l'intuition, mais dans un autre phénomène, qui peut être principalement, c'est ce que j'appelle les intuitions-illusions, qui sont des pièges de l'intuition. On pense que c'est de l'intuition, mais ça n'en est pas. Et le plus grand piège, c'est la projection. C'est ce que les psys appellent la projection, c'est-à-dire quand on va projeter sur l'autre ou sur une situation un désir, un fantasme, un besoin qui en fait est le nôtre. Donc l'exemple que je donne toujours, c'est la mère très bienveillante qui dit à son fils, ah, j'ai l'intuition que tu vas réussir ton bac.
Parce qu'elle le veut
Et
profondément en
voilà,
fait.
elle projette en fait sur son fils son envie que son fils ait son bac. Et donc, elle appelle ça de l'intuition. Mais là, on peut vraiment se demander si c'est de l'intuition ou pas. Peut-être qu'elle a vraiment eu une intuition, mais certainement que ce n'est pas de l'intuition, mais que c'est une projection. Et donc, on a beaucoup tendance à faire ça, à projeter, et on appelle ça intuition. On peut beaucoup manipuler les autres hein, avec l'intuition en
Mais
nous.
du coup, intuition, là, si on parle de cette femme et de son enfant qui va passer le bac, il y a une notion de presque de voyance. Est-ce que c'est lié? Parce qu'une intuition peut être. Est-ce que ce n'est pas un. Ça peut pas être un travail de l'inconscient qui tout d'un coup synthétise plein de données
Tout
qu'on a
à fait.
reçues et nous donne une réponse qui
Oui.
est présente? Alors que pour l'enfant qui va avoir son bac, quoique ça pourrait être de la même manière, sentir que l'enfant a
Est
confiance en
prêt?
lui, qu'il a bien travaillé, qu'il est prêt. D'accord, donc c'est l'intuition, est-ce que c'est en fin de compte un message de l'inconscient qui aurait
Oui.
fait le boulot pour nous, quoi, le
Oui.
boulot qu'on aurait pu faire
Oui.
de manière
Oui,
consciente?
c'est en grande partie oui. En tout cas, c'est la partie de l'intuition qu'on explique, on va dire. Les neuroscientifiques, ils appellent d'ailleurs l'intuition l'intelligence de l'inconscient. C'est-à-dire que pour eux, c'est la capacité. Il faut savoir qu'en permanence, notre inconscient va capter dans notre environnement un tas d'informations à l'insu de notre plein gré, entre guillemets. Donc, on va être comme notre cerveau est comme un ordinateur surpuissant qui va à chaque instant engranger tout un tas de données extrêmement subtiles qui nous viennent de nos cinq sens. Et c'est une somme phénoménale de données que notre conscient ne peut pas stocker. Donc, nous, en fait, on ne retient qu'une infime partie consciemment des informations que nous glanons de notre environnement. Et donc, tout cet immense stock de données, c'est comme une sorte de caverne d'Ali Baba d'informations, est stocké dans notre inconscient. Et puis, à un moment donné, effectivement, on va aller piocher dans ce stock-là d'inconscient au moment où on en a besoin. Par exemple, pour prendre une décision professionnelle, enfin, ou dans le cadre professionnel. Et là, on va aller, hop, piocher les informations et qui vont en quelque sorte remonter à la surface et qui vont nous donner une intuition. Donc là, dans le cas de cette femme, en effet, elle sait inconsciemment que son fils a bien travaillé, qu'il est confiant en lui, etc., etc. Donc tout ça, amalgamé, lui donne l'intuition que son fils va réussir.
Donc, en fin de compte, pour avoir une bonne intuition, une intuition qu'on puisse capter et qu'elle soit juste et pas seulement des projections, il faut avoir une certaine connaissance de soi ou une certaine intelligence émotionnelle, comme diraient d'autres, c'est-à-dire savoir reconnaître ses émotions, faire un peu le tri en soi. Et puis, j'ai noté dans ton livre peut-être une deuxième composante qui est la disponibilité. Ce qui n'est pas forcément dans l'entreprise toujours une donnée facile à
C'est vrai.
intégrer. Donc, qu'est-ce que tu entends par la disponibilité pour connecter avec son intuition?
Pour moi, la disponibilité, c'est en rapport avec ce que j'évoquais un petit peu avant dans notre interview, dans notre entretien. C'est le fait, la disponibilité, c'est le fait de pouvoir accéder à des informations qui viennent de nous, de notre intériorité. Donc, ça veut dire en quelque sorte d'être à l'écoute de soi. Donc effectivement, comme tu disais, de bien se connaître, avoir le temps et la capacité et la disponibilité justement pour être à l'écoute de ses émotions, pour ne pas être la tête complètement envahie de données extérieures, d'informations extérieures. Donc la disponibilité, c'est aussi, passe par le fait de s'occasionner des pauses, enfin de s'offrir, pardon, des pauses, même dans sa journée de travail, c'est hyper important. De faire des pauses, soit très concrètes, je pose, je sors, si je peux sortir quelques instants dehors, je respire, je ne prends pas mon téléphone pour pas regarder des informations, j'y vais les mains dans les poches, je respire, je souffle et je me reconnecte à moi-même, à ce que j'ai à l'intérieur de moi. Ça, c'est ça la disponibilité, c'est la capacité à un moment donné de s'arrêter, d'arrêter d'être influencé et envahi par le monde extérieur pour pouvoir se plonger et regarder en soi et s'écouter soi. Et la disponibilité, c'est aussi, alors ça, c'est dans le cadre du travail, mais évidemment, c'est un process qui se continue entre la vie privée et puis la vie professionnelle. Et pour bien intuiter aussi, comme tu disais, c'est très important de bien se connaître, donc de connaître ses fonctionnements, de connaître aussi ses fonctionnements qui parfois nous échappent, hein, donc ça veut dire que quand on fait un travail sur soi, qu'il soit thérapeutique, soit avec quelqu'un ou seul, hein, ça peut aussi marcher, mieux on va se connaître, mieux on va accéder à notre intuition parce que plus on va écarter les phénomènes parasites et plus on va véritablement aller vers l'expression de cette intuition pure qui est en nous et qui, elle, ne se trompe pas.
Je te remercie Isabelle, c'est un sujet vraiment passionnant. D'ailleurs, si vous voulez aller un peu plus loin, nous avons fait, Isabelle et moi, une interview ensemble il y a quelques années que vous trouverez sur le site de Moodstep. Je le mettrai également dans la description de ce podcast. Je te propose maintenant qu'on passe à ce questionnaire qui est commun à toutes les interviews, qui me permet de faire une compilation de livres, de citations, de techniques et d'échecs, parce que je crois fermement que dans les échecs, il y a de grandes leçons et c'est souvent là qu'on avance le plus. Est-ce que tu pourrais nous raconter un échec ou quelque chose qui pourrait être vu comme un échec et qui t'a permis de progresser?
Oui, j'ai en mémoire une histoire concernant un livre que, en fait, j'avais un sujet de livre dont j'avais envie de parler, qui porte justement sur la déconnexion et donc le fait de faire un peu une pause numérique hein, dans nos vies hyper connectées et pour justement, entre autres, pouvoir se mettre en relation avec l'intuition. Et puis, j'avais besoin de trouver un nouvel éditeur pour ça. Et puis, j'ai terminé à trouver un éditeur, mais ce projet de livre que j'avais a un petit peu changé de, comment dire, de vue et on m'a proposé de faire, de parler de ce sujet, mais dans une forme qui n'était pas une forme qui me convenait. Cependant, j'ai quand même accepté. Parce que pour diverses raisons, j'ai accepté quand même d'écrire ce livre sous la forme sous laquelle on me l'a demandé. Et puis ça a été un échec. C'est un échec parce que le livre ne correspondait pas à ce que j'aurais voulu qu'il soit. Mais cet échec a été très important parce qu'il m'a permis de comprendre une chose fondamentale, c'est qu'il faut toujours rester connecté à ce qu'on sent justement et à ce qu'on sent qui est juste pour nous. Et donc de ne pas dévier de cette voie-là. Donc, c'est à mon sens très important de comprendre que de toute façon, les échecs ont pour, et moi dans mon cas, c'était le cas, que cet échec avait pour objectif de me réaligner, de me réorienter sur ma, sur moi en fait, et sur ce que j'ai à apporter et à écrire, et que la forme est très importante aussi bien que le fond. Donc voilà,
Donc
donc
ça t'a rapproché de ton authenticité,
ça m'a
peut-être.
rapproché de moi et de ce que je dois faire, de ce que je veux faire, de quel est mon chemin de vie. Oui. Donc c'est bien les échecs. Oui, c'est ça, c'est bien en fait.
Oui,
Il
échouer,
faut,
échouer.
il faut, non mais il faut, je crois qu'il faut en connaître. De toute façon, il serait totalement illusoire de penser que on peut avancer dans la vie sans ça. Ce qui est pas grave, ce n'est pas grave de tomber. Ce qui est important, c'est de se relever et comment on se relève et quelle direction on prend.
C'est tout le sens de la question.
Bah oui.
Ensuite, c'est, j'aimerais savoir si tu as découvert une technique ou un outil, on va dire hormis ce que tu as, ce dont on a parlé, hein, l'intuition, qui t'a aidé dans ton chemin, soit personnel ou professionnel.
Oui, j'avais envie de parler de l'outil de la communication non violente
Ah oui.
de Rosenberg. Alors, c'est un outil vraiment intéressant qui m'a vraiment ouvert l'esprit. D'ailleurs, je recommande aux personnes de lire le livre donc, qui est écrit par Rosenberg, qui est ce psychiatre qui a mis au point donc, cette technique de la communication non violente. Son livre s'appelle Les mots sont des fenêtres. Et ça m'a beaucoup apporté, la lecture de ce livre, de comprendre comment, d'abord, la communication, évidemment, elle est essentielle entre les êtres, et comment on peut arriver à communiquer de manière plus bienveillante, plus douce, plus subtile avec les autres, à la fois en exprimant ce qu'on ressent, nos besoins, mais aussi en disant les choses. Parce que la communication non violente a pour but de dire les choses, et parfois des choses super difficiles. Et des gens même qui se font la guerre, hein, parce que Rosenberg, enfin, la technique de la communication non violente est même utilisée pour des gens qui, enfin, pour des situations de guerre très graves, hein, et de voir comment, en retournant certaines propositions, on peut arriver à véritablement être dans la vérité de l'expression, hein, de ce qui doit être dit, mais qu'on peut le faire avec bienveillance, avec douceur et dans le partage. Donc la communication non violente, moi j'essaye de l'appliquer dans ma vie modestement, mais j'essaye en tout cas à chaque fois de me rapprocher de ce but-là en essayant de réfléchir comment je peux dire parfois des choses qui sont difficiles, mais en le disant de manière non violente, douce et de manière à ce que le message soit le mieux diffusé.
Oui, d'ailleurs, je ferai sûrement une émission sur ce thème, car j'ai dans mon entourage des gens qui enseignent cette technique et c'est
Oui.
vrai qu'elle est très puissante.
Très puissante et transformatrice. Je crois qu'à
Ouais.
partir du moment où on essaie d'intégrer ce message-là, notre vie change parce que notre regard et notre manière d'interagir avec les autres changent.
Ben, merci beaucoup. Je passe à la suivante. Quelle est selon toi la qualité primordiale à développer pour être un bon manager?
Moi, je dirais que c'est la bienveillance. Et qui va avec l'empathie et l'ouverture d'esprit. Je crois qu'un manager, il doit être d'abord, avant tout, bienveillant. S'il veut avoir une super équipe hyper performante, on doit d'abord passer par cette case de la bienveillance.
Non, tu veux pas des managers violents. Je regardais un documentaire sur Vincent Bolloré là, qui est passé il y a pas longtemps sur France 2. Et c'est vrai qu'il dit, en arrivant dans l'entreprise, il disait oui qu'il fallait un peu plus d'agressivité et
Ouais.
Non, alors tu penses que
Je
ce temps-là, il révolue,
sais
hein.
que c'est le discours dominant. Enfin, c'est un moi quand je vois les gens avec qui je discute autour de moi, quel que soit leur milieu d'ailleurs, hein, il y a énormément de on sent hein, de violence dans les rapports de force, mais qui est une violence, je pense, liée aux exigences de performance, aux exigences de chiffres, à la peur aussi. Et du coup. Vraiment, ce mot bienveillance, il ne doit pas être galvaudé parce qu'il est très puissant. Et derrière la bienveillance, il y a pour moi, pour le manager, la qualité à développer de l'empathie, c'est-à-dire d'avoir la capacité de se mettre à la place de l'autre.
Qui
Et
rejoint l'intuition d'ailleurs.
qui rejoint l'intuition, oui, parce que l'empathie est une qualité éminemment intuitive, parce que je vais pouvoir me mettre à la place de l'autre ou pouvoir comprendre ce qu'il ressent. Alors à ce moment-là, je vais pouvoir intuitivement prendre les bonnes décisions. et puis même capter des choses subtiles, intangibles, informelles. Mais en tout cas, un manager bienveillant, forcément, c'est un manager qui va obtenir du résultat. Après, toute la difficulté, c'est qu'il faudrait que lui aussi reçoive de la bienveillance. Donc là, ça doit être une chaîne vertueuse qui, idéalement, doit venir d'en haut, en fait, du plus haut.
Ensuite, je voulais savoir s'il y avait un livre qui t'avait influencé ou un livre dont tu conseillerais la lecture.
Alors, il y en a plusieurs, mais je vais en garder un qui m'a beaucoup intéressée et qui est en rapport avec ce dont on parlait aussi sur la déconnexion et sur le trop-plein d'informations et sur comment on est voilà, envahi de plein de choses qui nous empêchent d'accéder à notre intériorité et à notre intuition. C'est le livre de Rémy Oudgéry qui s'appelle Déconnectez-vous. Et Rémy Oudgéry a été longtemps à diriger des études sur les modes de vie à l'Institut Ipsos. Et il a écrit cet excellent essai qui est très documenté. Et donc, il parle justement de toutes ces nouvelles technologies et de ce mouvement de la déconnexion qui est en train d'émerger. Et je pense que ça a vraiment du sens parce qu'il parle aussi beaucoup dans l'entreprise hein, de ce qu'on appelle l'infobésité aussi, c'est-à-dire toutes ces informations, ces mails, ces tonnes de mails que les gens reçoivent, ces tonnes dans l'urgence aussi, etc. Donc, il parle de tout ça, c'est très documenté, et puis ça fait réfléchir parce qu'il mène loin sa réflexion. C'est pas seulement une réflexion sociologique, mais moi j'y ai vu aussi une réflexion plus spirituelle au sens de s'occuper aussi de ce qu'on ressent, hein, de. Voilà, pas seulement d'être dans la performance, mais aussi d'être dans quelque chose de plus bienveillant, on va dire, de manière globale. Donc voilà, moi je conseille ce livre pour les managers parce que je pense que ça peut les éveiller à voilà, comment on est hyper connecté et comment ils peuvent, en faisant attention à ça, s'ouvrir eux à avoir plus d'intuition et aussi dans leur équipe, quoi.
Fabuleux. Je le mettrai en lien avec le podcast et sur le blog. Et puis, je mettrai également la citation que tu vas nous donner, une citation peut-être qui définirait ton action ou qui sous-tend un peu ce en quoi tu crois.
Je pense à la citation de Herbert Simon qui dit trop d'informations tue l'attention. Et moi, je rajouterais trop d'informations tue l'intuition. Voilà. Herbert Simon était un prix Nobel d'économie. Il a beaucoup écrit sur le management et notamment sur les décisions intuitives des managers. Et je trouve que cette phrase est très importante. Voilà.
Eh ben, super citation pour finir. J'aimerais savoir oui, où est-ce qu'on peut te retrouver, Isabelle? Donc tu as plusieurs blogs, hein?
Oui, alors le blog, j'ai un blog qui s'appelle histoiredintuition.com et qui parle là exclusivement d'intuition. Et donc qui est une sorte de prolongement des réflexions autour de mon livre. Donc j'y
Le livre
mets,
dont on peut rappeler le titre.
oui, développer votre intuition pour de meilleures décisions, c'est chez Leduc, éditeur Leduc. Voilà, donc ça c'est le blog dont je m'occupe et que je nourris régulièrement d'interviews, d'articles de réflexion sur différents sujets. Et puis j'ai un autre blog, celui-là, qui est ouvert, qui est collaboratif, qui s'appelle Vivre mieux le blog.com, et où là je parle plus de santé naturelle, de développement personnel. Donc j'y écris des articles, et puis il y a d'autres personnes aussi, au gré du temps, qui viennent et qui écrivent un, deux ou plusieurs articles sur les sujets qui les passionnent. Voilà.
D'ailleurs, j'ai vu le dernier article où tu proposais la lecture de quatre livres.
Oui, tout
Oui,
à fait.
j'ai vu.
C'est ça.
Je te suis, Isabelle.
Bravo. Je te remercie.
Bah, c'est moi qui te remercie. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Je te remercie d'avoir partagé, d'avoir pris le temps. Et puis, qui sait, on se retrouvera peut-être et sur ce podcast ou par un autre format, va savoir.
Oui.
En tout cas, merci beaucoup. Et
Merci à
puis,
toi.
bah, je te souhaite une bonne continuation et que tout le monde se connecte à son intuition.
Au revoir, Johanna. Merci à toi.
Au revoir. Quant à nous, on se retrouve pour le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. Si vous voulez être tenu informé sans rater la moindre émission, vous pouvez vous inscrire à la newsletter de Moodstep sur le site moodstep.com. Sinon, n'hésitez pas à partager, transférer ça à vos amis, parler de ce podcast, car c'est grâce à vous que je pourrai continuer. Je vous dis à très bientôt.